un quart d'heure, une demi-heure seulement, c'était le voisinage bon enfant. Tout semblait devoir se passer dans les meilleures traditions. Je vous rappellerai, à tout à l'heure.
Dans certains cas, il faut savoir désobéir.
Vous agitez. Mais pourquoi je vous dis ? Nous nous retrouverons certainement.
Le Midi Mix en direct sur les 3-8 aujourd'hui, un Midi Mix un peu particulier en rebond à la 6e édition du festival Nuit d'hiver qui a lieu en ce moment à Montevideo, un festival de musique improvisée ou plutôt qui explore les rapports entre musique écrite et musique improvisée. Aujourd'hui, ce Midi Mix va être animé par une playlist composée par Dominique Grimaud. Bonjour Dominique.
Bonjour Xavier.
Tu es co-auteur avec Eric Deshaies d'un livre qui vient de sortir aux éditions Le Mot et le Reste. Le livre s'intitule « Les musiques underground en France ». Alors peut-être on pourrait commencer par expliciter un petit peu ce terme d'underground. Qu'est-ce que tu as voulu englober dans ces musiques ?
Au départ, l'underground musical en France était le sous-titre. On avait pensé à un titre qui aurait été « Maquis sonore ». Et puis, il se trouve que les éditions Le Mot et le Reste a sorti un livre juste avant qui s'appelait « Les défrichages sonores ». Donc, notre titre n'était plus possible. On a cherché, c'était vraiment difficile de trouver le bon titre pour englober toutes ces musiques qui sont inclassables. Et donc, on s'est un peu rabattu sur le sous-titre qui est devenu le titre. Voilà, c'est pas très poétique. Mais ça dit de quoi ça parle.
C'est vrai qu'il y a toujours un peu une querelle sémantique pour nommer ces musiques. Musique de traverse, musique insolente, musique barrée. On ne sait pas très bien en fait comment les appeler.
Oui, mais ça c'est très très bien. Tant qu'on ne saura pas les nommer, c'est sain. Ça prouve que voilà, elles ne sont pas maîtrisées, elles ne sont pas enfermées dans un tiroir. Et voilà, ça c'est signe de bonne santé.
Ton bouquin commence, votre bouquin plutôt, commence, puisque tu l'as écrit avec Eric Deshaies, je le rappelle, commence autour de la période mai 68, hein, évidemment, grand moment de bouleversement culturel. Peut-être quelques mots sur ce contexte.
Moi j'ai connu mai 68, j'étais quand même jeune, j'avais 17 ans et demi. Je ne l'ai pas connu, je l'ai vécu, je travaillais déjà. Dans une petite boîte, donc je faisais pas grève, mais par contre tous les soirs j'écoutais la radio, c'était Radio Luxembourg, il y avait que ça qui marchait et on entendait les manifs en direct. Maintenant j'entends quand ils diffusent des émissions sur mai 68, c'est toujours les mêmes extraits que ah oui, voilà, j'ai vécu au moment. Et en fait, je suis venu vraiment à la musique en tant que musicien un petit peu plus tard, plutôt 69-70, mais ça s'est fait par la rencontre de quelqu'un qui s'appelait, ça s'est fait par la rencontre de quelqu'un qui s'appelait Patrick Vian, qui lui avait un groupe qui s'appelait Red Noise, et le premier concert de Red Noise c'était à la Sorbonne, dans la Sorbonne occupée.
Un contexte, mai 68, de forte ébullition politique et de forte ébullition musicale aussi. Un contexte où les gens montaient sur des barricades. Ben justement, on va écouter un petit extrait d'un groupe qui s'appelait Barricade. On en reparle juste après avec toi, Dominique. Ça s'appelle « See you soon, Bifoon ».
Yeah.
Barricade pour commencer cette playlist avec Dominique Grimaud autour des musiques underground en France. Peut-être quelques mots sur Barricade, Dominique.
Alors, Barricade, c'est bizarre pour moi de parler de Barricade, moi qui viens plutôt du Nord. Barricade implantée à Marseille. Et voilà, je ne l'ai pas croisé à l'époque, j'ai connu un petit peu après Hector Zazou, Joseph Racaille. J'ai rencontré récemment Manfred Kovacic, qui était le sax qu'on entendait. Et voilà, Barricade, c'était, on va dire en gros, pour résumer, des situationnistes et qui ont fait... qui avaient une manière d'agir... je ne sais pas comment dire, assez...
La vie et la création musicale, ça faisait un tout, quoi. Artistes dans leur vie, aussi bien que sur la scène.
Ils ont été très loin, ils écrivaient des faux courriers. Enfin, ils essayaient de faire parler d'eux au maximum, voilà, et tous les moyens étaient bons, et voilà.
Ça nous donne l'occasion de dire deux mots. Un premier à propos d'Hector Zazou, qui est disparu très récemment.
Oui, et bah, Zazou, après, il a créé un groupe que moi j'adore, qui s'appelle ZNR, qui a été fondé en 1975. Et leur premier disque s'appelle Barricade 3, d'ailleurs. Donc c'était un duo avec Racaille et puis quelques autres membres de Barricade. Et ça, c'est vraiment des bijoux. Ils ont fait deux albums. Et voilà, c'était très très beau. Et Zazou, après, est devenu un compositeur très recherché qui a travaillé avec beaucoup de stars.
On va continuer sur cette veine de mai 68, juste pour moi le temps de remercier François Billard qui nous a fait parvenir quelques petites pépites musicales dont celles que vous venez d'entendre à l'instant. On repart dans l'actualité de mai 68 et juste après on écoute Comintern.
Vous étonnez que les forces de la répression soient dans la rue alors que vous voulez défoncer cette société.
Oui, ça effectivement. Et, en fait, nous ne nous étonnons pas, mais nous la combattons. Et effectivement, les forces de l'ordre, qui sont le symbole de la violence de notre société, qui imposent la violence, obligent les manifestants, pour se défendre, à se défendre avec une certaine violence pour ne pas se faire massacrer. Nous avons l'exemple d'une manifestation non violente qui s'est terminée par 7 morts. C'est Sharon.
C'est fait l'été, nous voit pendant ventriloque. Qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris? Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques. Elle se secouera debout, hargneux, pourri. Son nez, une guêpe rouge qui le pique. Les grands vents qui passaient dans les hauts arbres ont tourné. Une bourrasque lui fait avaler sa chic. C'est fait l'été, pour moi, pantin ventriloque. Qu'est-ce que ça peut faire à la putain de Paris? Vos corps, vos poisons et vos loques.
comme interne, fou, roi, pantin. Cependant, le grand dirigeant à l'époque, c'était le grand Charlie. Aujourd'hui, des dirigeants, on en a un tout petit. Mais il est pas mal non plus dans son genre, celui-là. Tiens, pourvu qu'une guêpe vienne parfois sur son nez le piquer aussi. Bon, évidemment, c'est un style musical qui est très connoté, qui est presque daté, on pourrait dire. Mais en tout cas, il y a une caractéristique qui reste encore, on le voit bien, d'actualité. C'est l'engagement politique très fort. Ces musiques underground, elles étaient underground musicalement, mais elles étaient aussi underground politiquement, Dominique.
Oui, oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir un peu, tout à l'heure, tu as évoqué François Billard, et François Billard était un des cofondateurs avec Hector Zazou de Barricade. Et Barricade, l'unique disque qui est sorti d'eux, c'est sorti dans les années 2000 seulement, voilà, et une trentaine d'années et plus tard, quoi. Alors que Comintern, eux, ont enregistré, c'est un des rares groupes français qui, politiques, qui a enregistré pour un gros label. Et c'était. Ça s'est fait avec Constantin, le fameux Constantin, et ils ont eu des déboires. Et voilà, en fait, une fois le disque fini, il y a des textes qui ont été censurés, des textes chantés, des textes écrits sur la pochette. Et voilà, en fait, ils ne reconnaissaient pas vraiment leur objet, quoi, leur disque. Et voilà, le groupe a ensuite était vraiment au départ très proche de la Ligue communiste révolutionnaire, de Vive la Révolution, de tous ces groupes très gauchistes. Et quelques années après, moi, quand je les ai connus, il y avait une scission, quoi. Ils étaient revenus de tout ça et ils étaient toujours politique, mais moins politicard, on va dire, voilà. Et voilà, je les ai connus, ils s'intéressaient plus à la musique qu'à la politique. C'était en 75-76, ça.
D'autres groupes aussi dans cette mouvance, il y avait Camisole, il y avait Majoun.
Oui, il y avait Majoun qui avait fait le même choix que Comintern, qui avait aussi signé pour Vogue. Et qui, pareil, leur disque est sorti au bout d'un an et c'était très difficile pour eux. Le Vogue ne voulait pas le sortir. Voilà.
Ils ont sorti, je crois, qu'un seul album.
Non. Ensuite, le groupe s'est reformé. Ils ont sorti au moins trois albums.
Majung, on trouve les deux.
Oui, et
les
ensuite,
deux intitulés.
Le violoniste s'est un peu accaparé le nom. Il s'est fait appeler Jean-Louis Majung et il a fait un tube dans les années 80, vers 85 peut-être, quelque chose comme ça.
Ben, c'est pas un tube qu'on va écouter là, c'est Majoun, sans doute un de leurs premiers albums.
La place du marché sentait la mort et les gravats du soleil. J'ai longtemps marché, je voyais passer des oiseaux de pierre en haleine. Se confond les couloirs et se gonfle près des goulots d'azur. Les étrangleurs étouffent l'alouette contre le miroir des amants. We'll be right back. éclate aux mains pâles, aux mains sales de nos bouchers. Les fleurs se rident et le vin se fait noir. La grande fête est pour demain.
Majoun, c'était un titre d'un de leurs premiers albums, c'était Houba, Dominique Grimaud, en direct sur les 3-8 pour ce Midi Mix. Dominique, on évoquait tout à l'heure la qualité sonore, le grain sonore un peu particulier de ces morceaux qu'on écoute. Ils sont liés à l'époque, mais ils sont liés aussi aux techniques d'enregistrement.
Oui, ils sont liés... Pas vraiment, enfin aux techniques, plus directement ils sont liés aux hommes, je pense, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces musiciens, ça, là on est dans les années fin 70, je crois qu'il était enregistré en 69 ce disque, il faut savoir que ces musiciens étaient jeunes, inexpérimentés en studio, il n'y avait pas tous les home studios, les studios appartenaient aux grandes maisons de disques, et les gens qui travaillaient dans ces grandes maisons de disques... sans parler du staff, des producteurs, etc. Mais simplement, les preneurs de son ne connaissaient pas du tout ces musiques-là. Ils étaient habitués à la chanson française, avec la voix en avant, la musique derrière. Et quand ils voyaient débarquer ces chevelus, ils ne comprenaient pas la musique. Au mieux, il a toléré, mais bien souvent, il a détesté. Surtout que les textes n'étaient pas particulièrement tendres pour les bourgeois, les petits bourgeois. Et donc la plupart des disques ont été, une majorité de disques ont été enregistrés jusqu'en 1974 à peu près, souffrent de cette incompréhension. Il n'y avait pas de producteur comme aux États-Unis ou en Allemagne ou en Angleterre pour mettre cette musique en forme. Et souvent, les disques n'étaient pas représentatifs vraiment de la musique des groupes sur scène. Et ça s'est un petit peu arrangé à partir des années 74-75. Il y a par exemple l'Arfri, je ne sais pas si le morceau qu'on va entendre a été enregistré, vient de cet enregistrement, mais eux sont allés enregistrer en Angleterre avec les gens qui étaient les preneurs de son des Stones. Et là, on est sur un autre registre, quoi.
Bon, on va écouter l'Arfri, tu en parles à l'instant, c'est le bon moment. We'll be right back. L'Art Free avec Warino Baril. L'Art Free, un des groupes mythiques des années 70, plutôt fin des années 70. Et en tout cas, on se faisait la réflexion là avec Dominique Grimaud que c'était quand même quelque chose qui musicalement tenait encore tout à fait la route aujourd'hui. C'est un beau projet musical, l'Art Free.
Oui, c'est pas fin des années 70, cet enregistrement, c'est 72. Ouais. C'est leur deuxième enregistrement. Ils avaient fait une petite expérience avant et le producteur avait carrément été horrifié et avait stoppé les séances. Et là, ils sont partis enregistrer dans les studios d'Highland en Angleterre et on voit la différence, quoi. Là-bas, il y avait des preneurs de son qui comprenaient cette musique, qui savaient la mettre en forme et voilà, ça vraiment, c'est une autre énergie, quoi.
L'Art Free, un groupe dans lequel officiait Gilbert Hartmann, futur fondateur d'Urban Sax, dont on entend quelques notes là sous nos voix en tapis. Un groupe aussi composé de François Mativet, de Jean-Jacques Miette, Robert Wood. Quelque chose qui partait de ce côté très foutraque 68ard, hein, oui, politiquement oui, engagé, oui, qu'on a oui. écouté au début de cette émission, et là qui commence à se structurer comme des projets musicaux très élaborés.
Oui, alors Gilbert Hartmann, le fondateur du groupe, dit clairement que lui, il s'est mis vraiment d'une façon professionnelle, enfin qu'il s'est consacré entièrement à la musique après avoir assisté à des débats en mai 68 à l'Odéon, je crois. Et voilà, pour lui, là il y a eu la coupure avec son ancien métier. Et il a foncé dans l'Art Free, qui était vraiment un excellent groupe. Et dans les mêmes années, il a eu vraiment l'embryon d'Urban Sax, le projet a été refusé, et ça s'est développé à partir des années 76, et c'est devenu un gigantesque groupe, très vite, dans les années 80, 90, et voilà. Ils jouaient devant des milliers de gens et ils ont fait le tour de la planète. C'est un des rares groupes de cet underground musical qui a eu vraiment un grand succès populaire, pas médiatique, hein, c'était groupe de rue.
Et ils jouaient... Ça, c'était particulier quand même à l'époque, hein, que des musiciens aillent jouer dans la rue comme oui, ça, ils développent ouais. des spectacles faits pour la rue.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'était spectacle, mais c'était surtout la musique dans la rue. Il y avait des choses visuelles, mais toujours, la musique ne s'arrête jamais dans Urban Sax. Elle commence souvent avant le spectacle, elle continue après. Et c'est vraiment un envahissement d'un quartier, d'un bâtiment, voire d'une ville entière parfois, comme j'ai vu à Düsseldorf, où ils ont joué devant des milliers de gens, quoi. C'est très impressionnant.
En tout cas, une musique qui est étonnante, qui est novatrice, qui est unique, mais en même temps qui est pas une musique ex nihilo, qui sort pas de rien. On entend bien comment là le jazz est derrière les sons qu'on est en train ouais. d'entendre en ce moment. On entend bien aussi comment la musique minimaliste américaine est derrière Steve Reich, Terry Riley, etc. Au fond, c'est une musique très cultivée.
Oui, alors les influences de cet underground, elles sont diverses, mais il y a quand même des grands noms qui reviennent. C'est Zappa, Captain Beefheart, et puis les Anglais, Soft Machine, Robert Wyatt, et voilà, c'est les grosses références. Pour les gens comme Gilbert Hartmann, c'est plus le jazz, parce que ce sont des gens qui sont nés juste à la fin de la guerre, et voilà, le rock est venu, mais leur adolescence, c'est quand même les musiciens de jazz, Thelonious Monk et des choses comme ça.
Des influences évidemment essentiellement anglo-saxonnes, anglaises un peu, oui. américaines beaucoup. C'était le moment où le progressive rock battait son plein, notamment en Angleterre. Il y a eu des groupes mythiques, je pense à King Crimson par exemple, qui a beaucoup inspiré Richard Pignas, alias ouais. Eldon, qu'on écoutait en tapis au tout début de cette émission, qui fait aussi un peu partie de cette vague de musiciens qui sont inspirés ici en France du progressive rock.
Oui, oui. Et alors, le problème au début pour pas mal de groupes, c'est que, pas forcément ces groupes-là, justement, mais il y avait beaucoup de groupes français qui n'étaient en fait que des copies des meilleurs groupes anglais et américains. Donc, forcément, ils pouvaient pas s'exporter. Ça les intéressait pas. Ils avaient pas besoin de la copie puisqu'ils avaient l'original chez eux. Et par contre, ces groupes plus intéressants comme l'Art Free, comme Eldon, Barricade, étaient assimilés aux autres groupes. Et voilà, les gens ne faisaient pas la différence. Et ce qui fait que c'est peu connu. En fait, on connaît le psychédélique la musique psychédélique américaine, on connaît les, voilà, le progressif anglais, on connaît le rock allemand, et puis on a l'impression qu'en France, il n'y a rien eu, et ce qui n'est pas vrai, il y avait des groupes, mais qui étaient peu connus, en fait, que des spécialistes. Et bon, ça change un petit peu dans ces dernières années, ça commence à un petit peu à se faire connaître. Il y a des rééditions, c'est venu avec le CD, et quelques perles sont ressorties.
Alors, il y a quelques groupes, effectivement, en France, devenus depuis mythiques, comme le Gong, par exemple, ou Magma, typiquement, qui s'insèrent dans ce que tu viens de, dans ce que tu viens de développer. Gong, peut-être notamment, parce que c'était un groupe moitié-moitié, hein, franco-anglais.
Oui, c'était un groupe plus compliqué que ça. C'était un groupe international, puisqu'il y avait David Allen est australien, il n'est pas anglais. Et ça, c'est un grand groupe de l'époque, et eux aussi avaient vraiment le son, quoi. Et David Allen a commencé en 63, son premier groupe, c'est vraiment quelque chose.
Dans une catégorie très psychédélique, on va dire que l'usage de cette musique était recommandé avec l'usage d'autres substances.
Oui.
Enfin, c'était lié, quoi. Fallait fumer un bon pétard et écouter ça, ça allait avec.
Oui. Bon, là, je sais pas, moi, j'ai jamais fumé le pétard, alors, bon.
Alors, plutôt tendance Magma, alors, parce que eux, le pétard, c'était pas leur truc.
Ni l'un ni l'autre, moi, c'était plutôt la tendance Gong, mais sans le pétard, quoi, c'était possible aussi, et voilà, et justement, là, je fais un gros bond en avant, il y a un projet avec David Allen, avec un groupe actuel qui s'appelle Clamparaï, et voilà, et je suis invité dessus, et voilà, je suis fier de ça.
On évoquait tout à l'heure le personnel du groupe Larfri qu'on a écouté, c'était notre dernière sélection. Robert Wood avait joué aussi avec un groupe qui s'appelle Camisole. Alors évidemment, c'était de parti pris parce que tu faisais partie de ce groupe, mais c'est l'occasion aussi de rappeler que si tu viens à Marseille, c'est pas seulement pour présenter le bouquin que tu as coécrit avec Eric Dehé sur les musiques underground, mais c'est aussi comme musicien, comme guitariste notamment, invité aux Nuits d'Hiver. Alors peut-être deux mots sur Camisole.
Alors... Excuse-moi, Xavier, Robert Wood n'a pas joué avec Camisole.
En fait, c'est
Gilbert Hartmann. Et, en fait, les deux groupes, Larfri et Camisole, ont fusionné. Mais à ce moment-là, c'était en 77 ou 78, Larfri se résumait à deux personnes, Gilbert Hartmann et un clavier. Et il y avait un sax aussi, qui était le premier sax d'ailleurs, qui était revenu. Et voilà, Camisole, c'était un groupe qui... On peut peut-être un peu comparer avec Barricade, anarcho, je ne sais quoi.
Comme ils disent maintenant au ministère de la Justice, anarcho-indépendant, je ne sais pas quoi.
Ouais, ouais. Bon, voilà.
Anarcho-autonome. Voilà.
Nous, on avait une période où on avait composé, et puis finalement, la meilleure période de Camisole, qui a été un groupe qui a duré une bonne dizaine d'années, c'était les 3-4 dernières années où on avait décidé de complètement improviser, on répétait plus, on commençait les concerts avant, après, voilà, il n'y avait plus aucune règle et voilà, là c'était la bonne période et je peux dire on a eu la chance de ne pas enregistrer notre disque est sorti bien plus tard, après au moins 6 ou 7 ans de pratique et on n'a pas été dans ce cas de figure que je racontais tout à l'heure, des jeunes inexpérimentés qui rentraient en studio et qui rataient leur disque. Et voilà.
Je te propose qu'on écoute maintenant une nouvelle sélection musicale. C'est Étron, Fou, Le Loup Blanc, un morceau qui s'intitule « Et moi ».
Beau. Que vais-je devenir? C'est un vrai martyr. Moi, si gentil, gracieux et poli, obligeant et serviable, dévoué et sociable.
Étron fou le loup blanc, un morceau intitulé « Et moi ». Étron fou le loup blanc, Dominique Grimaud, un groupe mythique, un des plus anciens.
Oui,
de cette scène underground.
Oui, Étron fou, ils ont commencé vers 74, je crois, et voilà, enregistré leur premier disque en 75, et ils ont terminé leur carrière, si je peux employer ce mot affreux, en 86. Et ils ont vraiment... Ce que j'aime bien dans Étron fou, c'est que c'est... Oui, on peut dire un groupe mythique, mais il y a quelques groupes mythiques des fois qui m'énervent un petit peu parce qu'en fait, ce sont pas ils sont juste mythiques, quoi. Alors que les Étron fou, ils sont mythiques, mais en plus, ils ont énormément joué. Ils ont joué beaucoup à l'étranger. Ils sont beaucoup plus connus à l'étranger qu'en France, ce qui est aussi le cas de la plupart de ces groupes. Hein, et c'est vraiment quelqu'un qui a été au charbon, quoi. Et c'est un grand groupe.
Un qui est mythique, mais alors lui, mythique de chez mythique, c'est celui qu'on entend en ce moment derrière nos voix, c'est Jacques Bérocal.
Oui.
Personnage mythique s'il en est,
oui,
mythique
aussi,
et mystique.
Lui aussi, il est allé au charbon et son premier disque, c'est aussi ces années-là, 74 peut-être, je ne me souviens plus très bien, enfin milieu des années 70 et il continue toujours à faire des choses et voilà, il se remet toujours en question, toujours plein de surprises et voilà, c'est un sacré personnage.
Étron fou le loup blanc, Jacques Bérocal, de formes musicales qui sont croisement du rock progressif qu'on a écouté là un peu avant, mais aussi avec énormément de jazz, énormément de respect pour le jazz, là pour
oui.
le coup, pour le free jazz. Oui. Une musique très solaire, je crois que c'est comme ça que tu l'as défini dans les typologies que tu évoques dans ce bouquin que tu as écrit.
Oui, Jacques Bérocal, c'est, de toute façon, il dit une chose qui est tout à fait vrai, du moins les influences sont de toute nature et de toute provenance. Et c'est quelqu'un qui s'inspire du jazz, mais aussi de la chanson française. Il a quand même réussi l'exploit de jouer avec Yvette Horner, de faire un duo avec Yvette Horner dans les années 90. Et voilà, il joue aussi avec Christophe. Et en même temps, il est capable de jouer complètement free avec d'autres musiciens de jazz. Et c'est vraiment quelqu'un de surprenant, on ne peut pas le cerner. Et moi, c'est ce que j'adore, quoi.
Le jazz free, le jazz barré, le jazz libre, c'est quelque chose qui a longtemps incarné pour le grand public cette musique underground des années 70-80, on va dire.
Oui, c'était un des ingrédients, mais il y en avait d'autres. Il y avait le rock, il y avait la chanson aussi qui intervenait. C'était vaste. En fait, je crois que ce qui intéressait vraiment ces musiciens, c'était de ne pas être défini dans un style précis, de puiser un peu partout et de surprendre et de pas être enfermé dans une chapelle, en fait, c'est ça.
Des groupes comme Étrons Fous, Le Loup Blanc ont eux-mêmes généré d'autres groupes, un phénomène qui est aussi caractéristique de cette époque. Oui. C'est le foisonnement. Un groupe de départ génère deux ou trois groupes dissidents, quatre ou cinq groupes séquelles, et une bonne douzaine d'enfants légitimes ou illégitimes.
Oui, oui, tout à fait. Étrons Fous, il y a une véritable famille. Pourtant, c'était juste un trio, mais voilà, famille très nombreuse. Oui, oui, avec beaucoup de cousins.
Famille nombreuse, famille heureuse, on pense par exemple au philosophe, et on en a un qui est pas loin de chez nous, c'est Ferdinand Richard, qui est directeur de l'AMI.
Oui, alors Ferdinand, c'était un des piliers d'Étrons Fous, et voilà, il continue. C'est ça que j'aime bien aussi, j'ai essayé de défendre avec Eric dans ce livre. Évidemment, on parle de beaucoup de groupes, et une grande majorité a disparu, mais on a essayé de mettre en avant un peu les personnages qui sont là depuis le début et qui ont changé de groupe, qui ont évolué, qui lâchent pas le morceau, qui agissent toujours pareil. Il y a Pierre Bastien aussi, il y a Bérocal, il y a Gilbert Hartmann, on pourra en citer beaucoup, Ferdinand, Guigou Chenevier, son collègue d'Étrons Fous. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, ce sont des gens maintenant qui ont 50, 60 ans et qui continuent toujours à jouer, qui se déplacent, qui font des concerts ou qui sont plus organisateurs, ça dépend, mais qui défendent toujours la même chose.
Dans cette sélection, on aura beaucoup sillonné les années 70, en fait les débuts de cette période des musiques underground en France. On aura peut-être un peu moins abordé les années 80 et 90, peut-être par manque de temps, ou peut-être parce qu'il fallait un peu se focaliser là-dessus, parce qu'on a rarement l'occasion d'entendre ce qu'on a donné à entendre là, au cours de cette sélection. Enfin, quelques mots quand même sur le passage aux années 80, le mouvement punk, comment il s'inscrit dans ces musiques underground, et puis ensuite le post-punk.
Oui, alors c'est rigolo, parce que la perception du punk en France, c'était assez étrange, et on parlait d'Étrons Fous tout à l'heure, et Étrons Fous, pendant des années, les critiques disaient « Oui, mais Étrons Fous, leur musique est trop en avance, on ne comprend pas, le public ne peut pas aimer, etc. » Et puis, d'un seul coup, le punk est arrivé, et alors on disait « Étrons Fous, mais votre musique, c'est une vieille musique, vous êtes des ringards, etc. » Alors qu'en Angleterre, ils étaient considérés comme un groupe punk. Et voilà, les concerts en Angleterre étaient organisés par des punks, et Étrons Fous en France, voilà, c'était des babas, c'était une autre génération. Il y avait ce genre de conflit qui était vraiment pas du tout intéressant.
Tu l'as ressenti comme une rupture, toi, à ce moment-là, dans le climat musical français
et... Ah oui, mais ce qui est dommage, c'est que le punk en France, c'était quand même un peu une façade, quoi, une façon de s'habiller plus qu'une pratique. Ou voilà, moi, ça me...
Tu veux dire que c'était différent en France dans l'Angleterre ?
Ah oui, apparemment, oui, oui. Je n'ai pas vraiment connu, je ne suis pas allé en Angleterre à ce moment-là, mais oui, oui, bien sûr, c'était... En Angleterre, les punks étaient vraiment actifs, alors qu'en France, c'était plus une pause, quoi. Et avec le rejet de tout ce qu'il y a eu avant, c'est bien, je suis pas contre, mais je pense que les groupes, comme on a entendu tout à l'heure, Lar Free ou Eldon, avaient déjà fait de l'autoproduction et des choses comme ça bien avant le punk. On parle souvent du rock alternatif des années 80, et la plupart des livres que j'ai lus ou des articles, on a l'impression que le rock français alternatif commence dans les années 80, alors qu'il commence fin des années 60. Début des années 70.
Une caractéristique de ce rock alternatif des années 80, c'est qu'il s'articulait plus sur des collectifs ou des maisons de prod, je pense à Boucherie Productions par exemple, que sur des groupes proprement dits ou sur des collectifs d'artistes. Au fond, c'était plutôt ça, hein, c'était plutôt des labels qui fédéraient une création plutôt que des groupes ou des artistes.
Mais ça existait aussi dans les années 70, mais c'était, disons que ça a moins bien marché. Il y avait la même idée. Il y avait par exemple toute une succession de... Il y avait des gens qui avaient créé... Alors ça, c'était toujours autour des groupes comme Lar Free, Étrons Fous, Camisole et d'autres. Et c'était Rock Pagaga, c'était Dupont et ses fantômes. Mais c'est vrai qu'il y avait là un discours, et ensuite c'était assez difficile de passer aux actes parce que tout simplement, il n'y avait pas les subventions. C'était vraiment beaucoup plus artisanal Et voilà, c'était...
Il y avait très peu de labels, hein, de toute façon, commerciaux ou pas commerciaux en France à ce moment-là.
Oui, c'était, oui, bien sûr, c'était beaucoup plus réduit et les pratiques étaient différentes. Quand on arrivait dans un festival, on n'était pas du tout sûr de l'heure à laquelle on allait passer, si on allait être payé. Toujours, il y avait une partie des groupes, des plus grands noms annoncés qui n'étaient pas là, c'était... beaucoup plus anarchique au sens pas forcément intéressant du terme, quoi. Et ensuite, dans les années 80, bon, bah, y avait un peu plus d'argent, donc ça tournait mieux, quoi. Et puis aussi, je pense que les gens s'étaient améliorés, voilà, ça se professionnalisait un peu, et bon, ça c'était pas mal quand même.
Le bouquin que tu as coécrit avec Éric Des, Musique Underground en France, se conclut avec un hommage à un musicien qu'on connaît très bien ici à Marseille et particulièrement à Radio Grenouille et qui nous est très cher, c'est Éric M. Est-ce que tu le trouves emblématique d'une continuité de ces musiques
tout
underground?
Tout à fait, oui, bien sûr. Je crois qu'on a marqué dans le livre que Éric M est un musicien qui est dans la continuité de Richard Pinas et je pense que c'est vraiment ça, quoi. Bien sûr, c'est un peu différent, c'est pas la même époque, mais il y a vraiment des affinités, des connexions à faire, oui.
Sauf que Richard Pinas était quand même extrêmement influencé par King Crimson. On peut même presque reprocher que ce soit quasiment du clonage, alors qu'Eric M a une démarche beaucoup plus singulière.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord. C'est du clonage, mais en même temps, il y a quelque chose de fort dedans. C'est pas de la copie, je sais pas, il s'est vraiment approprié... évidemment, oui, il a beaucoup puisé, il s'en est pas caché, les morceaux sont en hommage, il le dit clairement. Et il y a quand même quelque chose de très très fort, c'est pas une copie comme on pouvait trouver dans d'autres groupes qui, voilà, s'inspiraient, mais y avait pas une leur personnalité ne ressortait pas chez Richard Pinas, elle ressort vraiment très très fortement. Et lui continue à faire de la musique, il vient de sortir un triple album en Angleterre.
Dominique Grimaud, tu es venu à Marseille pour présenter ce bouquin qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste, Musique Underground en France, mais tu es aussi venu participer au festival Nuit d'Hiver, 6e édition de ce festival, non pas comme auteur, mais comme musicien. D'ailleurs, tu es venu dans ce studio accompagné de ta guitare, ça c'est une excellente idée. Peut-être dans quelques instants on va pouvoir t'entendre, si tu veux bien, mais juste en deux mots, là, qu'est-ce que tu vas présenter à l'occasion de ces concerts pour les Nuits d'Hiver?
Alors, maintenant, bon, j'ai plusieurs projets, hein, mais celui que j'ai amené là, c'est un projet avec des guitares. C'est un projet avec peu de matériel, voilà. Maintenant, je voyage en train, et donc, il faut être léger. Et c'est Pierre Bastien qui m'a appris ces pratiques-là, de considérer le projet en fonction de la façon dont on se déplace aussi. C'est très intéressant de travailler comme ça. Et puis, il va y avoir quelques courts-métrages aussi, entre les morceaux qui... c'est un jeune homme qui a fait ça sur des musiques que j'ai composées soit seul, soit avec Pierre Bastien. Et voilà, c'est la musique. C'est une sorte de déviance du blues un peu. C'est une autre des musiques qui m'a beaucoup influencé.
J'ai plus les dates en tête là, mais on va pouvoir t'écouter quand?
On est aujourd'hui lundi, c'est mardi-mercredi.
Mardi et mercredi, toute la programmation est sur www.grim-marseille.com. On va tout de suite écouter Éric M, le temps que Dominique Grimaud accorde sa guitare, et on se retrouve juste après pour un petit live. Éric M.
Trotzdem an. speech.
Die Bronsteen auch.
Noch nichts verblieb.
Die Bronsteen auch. Gib alle Vorsichtigkeit.
C'était notre dernière sélection musicale pour ce Midi Mix aujourd'hui sur les 3-8 consacré à l'underground musical en compagnie de Dominique Grimaud. Eric M, platiniste aujourd'hui, qui a commencé dans un groupe de rock. On peut passer de la guitare au platine. Comment tu perçois, Dominique, cette évolution aujourd'hui des musiciens vers une autre pratique instrumentale? La platine aujourd'hui, c'est l'instrument un peu majeur des musiciens.
Oui. C'est bien. Moi, je pratique aussi les platines. Bon, pas tout à fait de la même façon. J'utilise des vieux 78 tours. Mais oui. De toute façon, je pense qu'il faut tout utiliser. Tous les moyens sont bons. Il n'y a aucune limite. Et voilà, on peut aussi bien utiliser des platines qu'une vieille guitare de 1931 comme celle que je tiens dans mes bras.
En vraiment sur tes genoux. Alors peut-être décris-moi la chose, l'objet.
Cette chose quand...
Chose, c'est pas gentil d'ailleurs.
Non, mais
c'est
si,
personne,
si, tu vas comprendre pourquoi je dis chose, parce que en fait, je l'ai acheté aux États-Unis par l'intermédiaire d'une copine américaine et elle l'a reçue par un livreur dans son appartement à New York. C'est une guitare qui vient de Nashville. Et quand elle l'a ouvert, elle a cru que c'était quelque chose qui sortait d'une poubelle. Elle a dit, oh là là, ok. Et puis, une minute après, elle s'est dit, non, en fait, si elle a cette... si elle est dans cet état, c'est que c'est une vraie, quoi, voilà. Donc c'est une guitare en métal et un petit peu rouillée, et voilà, tout en métal sauf le manche, avec des petits trous et un résonateur en dessous des petits trous.
Une guitare qui a dû voir passer pas mal de mains qui jouent du blues. Le blues, c'est aussi une musique qui t'intéresse beaucoup, Dominique.
Alors ça, c'est une guitare en fait qui a été inventée avant les guitares électriques. C'était tout simplement dans les bars pour se faire entendre. Faut pas oublier que le blues, c'est une musique de bar, de bordel, de bandits, de gens malfamés, de vagabonds. Donc ça nous parle bien, quoi. Et oui, c'est une autre de mes passions. Et ben voilà, j'ai pas besoin d'écrire des livres là-dessus, il y en a beaucoup.
Il y en a quelques-uns déjà. Hein.
Et moi, le blues qui m'intéresse, c'est vraiment celui fin des années 20 et juste dans les années 30. Voilà, il y a vraiment des gens...
Pourquoi
qui... Ben, je sais pas, c'est le son qui me parle. Je pense que, il y a eu des choses bien après, mais il y a beaucoup de déchets aussi dans le blues, quoi. Il y a eu beaucoup d'enregistrements et faut bien sélectionner. Il y a des perles magnifiques dedans, mais des choses plus ordinaires et des choses pas très bien aussi, parfois. Enfin, c'est pas très bien, c'est un peu des redites, quoi.
Le blues, ou plutôt les blues, c'était l'intitulé de la précédente édition des Nuits d'hiver, l'an dernier. Un blues dont on a bien vu qu'il partait dans toutes les directions, dans le monde entier. Et là maintenant, on va écouter quelques notes de Dominique Grimaud sur sa guitare en métal rouillé.
Thank you.
écoutiez Dominique Grimaud en direct du studio des 3-8 pour ce Midi Mix spécial. Je rappelle que Dominique Grimaud est l'auteur de Musique Underground en France, co-auteur avec Eric Dehay, et que ce bouquin est dans la collection Forme et édité par Le Mot et le Reste, disponible chez tous les bons libraires. Je rappelle aussi que Dominique Grimaud sera en concert mardi et mercredi dans le cadre de la 6e édition des Nuits d'hiver à Montevideo et à la médiathèque de Rousset. Toute la programmation du festival Nuits d'hiver est sur le site du Grim, www.grim-marseille.com. Et si vous voulez des renseignements, vous pouvez les appeler 04 91 04 69 59. On se quitte pour ce Midi Mix. Merci beaucoup Dominique Grimaud d'être passé par notre studio.
Merci à toi.
Mais que s'est-il passé alors qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure seulement, c'était le voisinage bon enfant. Tout semblait devoir se passer dans les meilleures traditions. Je vous rappellerai, à tout à l'heure.
Certains cas, il faut savoir désobéir.
Vous agitez. C'est pourquoi je vous dis... Nous nous retrouverons certainement.